Je suis souriant parce que j'ai déjà été béni au travers de la préparation de ce message. Et je ne sais pas si je vais partager avec vous parce que c'était tellement bon. Mais bien sûr, je vais partager avec vous. C'est vraiment trop bon. Alors, est-ce que vous allez pouvoir me confirmer que c'est bien Dujardin qui a été oscarisé ?
Oui.
Ah oui, voilà. Donc, Dujardin hein, a été oscarisé et il a été oscarisé pour The Artist. Pour un film muet. Donc, j'ai voulu introduire ce message par effectivement cette mention d'un film muet oscarisé, parce qu'il s'agit effectivement d'une prédication sur la parole. Comme quoi, effectivement, on n'a pas besoin de parler pour être récompensé. Bon, on connaît aussi très bien les expressions comme Ah, ce ne sont que des mots, que des mots, que des paroles. Ou Je vous donne ma parole, c'est la vérité. En général, nous n'accordons pas beaucoup d'importance ou grande confiance aux paroles, surtout d'ailleurs dans cette période-là. On est en période électorale. Hein, et la parole, en particulier des hommes politiques, hein, point de suspension. Nous sommes également abreuvés par pas mal de campagnes publicitaires hein, et tous ces slogans hein, qu'on lit, qu'on entend, toutes ces paroles. Hein, qu'on nous fait lire et entendre, veulent nous faire croire certaines choses. Et certainement nous font croire certaines choses. Puisque ces campagnes publicitaires ont quand même leur efficacité. Hein. Nous, chrétiens, nous avons accès à la vraie parole, la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut ce matin en particulier nous parler de la parole pour vraiment, vraiment, nous faire prendre conscience de ce qu'elle est vraiment, cette parole. Alors, je ne sais pas si, je suis même sûr quand même, qu'au sein de cette assemblée, on est déjà nombreux à avoir entendu des messages, des enseignements sur la parole. Donc, je me suis dit, en préparant ce message, je vais encore enfoncer des portes ouvertes. Je vais encore parler de la parole, mais Seigneur, tu veux que je parle de la parole, mais on a entendu tellement parler, on la cite tellement cette parole, on la chante, que bon, ça va pas être très original et ça va pas nous apporter grand-chose. Mais je crois et je suis sûr que le Seigneur veut ce matin nous parler de ce que représente cette parole, cette écriture, pour que, encore une fois, nous prenions conscience de ce qu'elle est vraiment. Et par rapport à ce qu'elle est, bien sûr, nous en tenions compte par rapport à ce que nous voulons en faire, par rapport à notre rôle. Donc je vais vous parler de la parole de Dieu au travers de trois points essentiels. C'est d'abord la parole de vie. La parole de vie. Ensuite, c'est un aliment. C'est un aliment spirituel. C'est quelque chose qui est indispensable pour vivre, pour grandir. Et enfin, c'est une arme. Alors tout d'abord, c'est la parole de vie. Bon, alors nous, chrétiens, dire que les Écritures, c'est la parole de vie. Combien de fois le disons-nous? Combien de fois l'entendons-nous? Des milliers de fois. Mais est-ce que nous nous rendons vraiment compte de ce que ça représente, la parole de vie? Alors pour que nous nous en rendions compte un peu mieux, prenons ce merveilleux passage de l'évangile de Jean. C'est un de mes préférés. Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Un merveilleux passage. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La parole est vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Tout est dit là. Tout est dit. Dès le commencement. Dès le commencement du monde. Dès la création. La parole était là. Et la parole a permis la création. Nous savons que le monde a été créé par la parole. La parole est vie. Est-ce que nous nous rendons vraiment compte de ce que ça représente? La parole est vie. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole est vie, c'est-à-dire que nous qui vivons en ce moment, nous vivons grâce à cette parole. Non seulement parce que nous sommes régénérés, vous avez été régénérés, nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Donc non seulement nous vivons par cette parole parce que nous avons été régénérés en recevant cette semence de la parole, de l'Écriture, mais parce que même sans être régénérés, les personnes qui ne connaissent pas Christ vivent parce qu'elles ont reçu le souffle de vie, elles ont reçu par la parole, par les mots de Dieu, l'existence. La parole est vie. Donc nous sommes doublement, nous chrétiens, fondés sur cette parole de vie. Nous avons été régénérés par cette parole. Un jour, nous avons accepté de croire en Christ. Et nous l'avons accepté parce que nous avons cru à cette parole. Nous avons été régénérés et nous vivons désormais parce que nous sommes régénérés par cette parole. Régénérés par une semence non pas corruptible, qui pourrit, mais par une semence incorruptible. Une semence. Alors quand on parle de semence, on pense tout de suite, nous chrétiens, à la parabole du semeur. Cette fameuse parabole. Cette merveilleuse parabole où Jésus explique à ses disciples que le semeur sème la parole. Lorsqu'il a expliqué à ses disciples ce que signifiait cette parabole, il a expliqué que dans cette image qu'il donnait aux gens autour de lui, eh bien lorsque le semeur sème ses graines, en réalité le semeur sème la parole. Il a dit explicitement à ses disciples la signification de la parabole. Donc le semeur sème la parole. Et un peu plus loin, donc toujours dans le passage de l'évangile de Marc, au chapitre 4, au verset 20, et ceux qui entendent la parole, donc qui reçoivent cette semence, et qui l'acceptent, et qui l'absorbent, comme une terre absorbe la graine, eh bien portent du fruit. Donc nous un jour, comme chrétiens, nous avons reçu cette semence, nous avons reçu cette parole, nous l'avons comprise, nous y avons cru, nous l'avons absorbée, et depuis nous portons du fruit, plus ou moins, mais nous portons du fruit. Voilà, donc cette parole est parole de vie, c'est une semence de vie. Donc bien prendre conscience que l'Écriture, ces mots que nous prononçons, extraits de ce bouquin, c'est une semence de vie, c'est une parole de vie véritable. Ça n'est pas rien, c'est une parole de vie véritable. Et que par rapport à cette semence, nous avons donc un rôle de semeur. Un rôle indispensable de semeur. Nous détenons une besace. À l'époque des semeurs, effectivement, ils avaient une besace avec des graines et ils semaient de cette manière. Et nous, avec cette Bible, nous avons notre besace dans laquelle nous pouvons prendre les graines, la semence de vie. Et nous devons semer ces paroles. Et ce rôle de semeur est un rôle indispensable. Est un rôle indispensable, on le sait, parce qu'effectivement, c'est la mission que Jésus a attribuée à ses disciples, de faire du monde entier des disciples. Et ce qui est majeur, essentiel, c'est que ce rôle, personne d'autre ne peut le prendre que nous qui avons reçu cette semence. C'est comme une chaîne, nous faisons partie d'une chaîne. Il y a un relais. J'ai reçu cette semence, moi-même un jour, comme chrétien, eh bien je dois moi-même la donner, cette semence, à quelqu'un d'autre. C'est une véritable chaîne, nous faisons partie d'une chaîne de semeurs qui a commencé par Christ. Prenons ensemble le passage dans Jean, chapitre 17. Le passage de la prière sacerdotale. La prière que Jean, que Jésus, a faite à Dieu juste avant de subir l'épreuve de la crucifixion. Donc la prière ultime que Dieu a adressée à Dieu pour confier ses disciples. Donc c'était vraiment une prière essentielle, importante. Il se voyait effectivement prêt de partir et il voulait donc confier à Dieu les disciples avant de les quitter. Donc les mots ont une importance essentielle. Donc chapitre 17 de Jean, passage qu'on va lire à partir du verset 6. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. » Il parle de ses disciples. Hein. Les disciples qui ont des noms. Il y a Pierre, il y a Jacques, tous les disciples qu'il a choisis. « Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Jésus est parti en mission, alors qu'il était auprès du Père. Il est parti en mission avec des paroles de Dieu. Et sa mission, c'était de donner les paroles que Dieu lui avait données. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, comme ils ont reçu une bonne semence, dans une bonne terre. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Dieu a donné à Jésus les paroles que Jésus a ensuite confiées à ses disciples. Ses disciples ont reçu ces paroles, ils ont cru et reconnu que Jésus est fils de Dieu. Et la chaîne maintenant se poursuit avec nous. Et Jésus lui-même y a pensé à la poursuite de cette chaîne. Lisons un peu plus loin au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, pour ses disciples qui étaient autour de lui, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc il remettait déjà les disciples qui croiraient après les premiers disciples à la parole qu'ils auront reçue. Donc il pensait déjà à la chaîne de transmission de la parole aux autres. Donc il priait déjà pour nous, comme il prie également pour toutes les personnes qui recevront de notre part la même parole. Et enfin, pourquoi est-ce qu'il prie pour que cette chaîne se poursuive? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, et qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Ils le disent simplement là que la mission d'apporter cette semence, cette parole de vie au monde entier, pour que, effectivement, le monde entier puisse croire la bonne nouvelle. Donc la parole est la parole de vie. La parole de vie, une semence. Est-ce qu'on vient de lire et de relire? C'est cette semence. Ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas vos mots, ce sont les mots de Dieu. Ce qui est à semer, ce sont ces mots-là, pas les miens, pas les vôtres, sont ces mots-là, sont ces graines-là qu'il faut puiser dans la besace. C'est cette parole, ce sont ces mots qui sont la vraie vie. Pas les mots de certaines personnes autour de nous en ce moment pour parler de certaines choses. Pas non plus les non-mots de Desjardins, puisqu'il n'en prononçait pas dans ce film. Non, ce sont ces mots-là qui sont les mots de la vie, les vrais mots de la vie. Est-ce que nous sommes vraiment conscients de ce que sont ces mots-là, les mots de vie, les vrais mots de vie, des vraies graines? Ce sont ces graines-là qui peuvent germer, pas d'autres graines, et en particulier pas mes graines à moi, pas des graines que je crois ressembler aux graines du Seigneur, pas des mots ou des formulations qui semblent ressembler aux formulations, aux phrases du Seigneur. Ce sont ces phrases à lui, ce sont ces mots à lui qui sont importants. Un frère m'a partagé il y a moins d'une semaine que depuis qu'il est chrétien, il se reconnaîtra, eh bien il est très prudent dans ce qu'il dit. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que l'on dit, bien sûr à ce que l'on fait, parce qu'on veut refléter le Seigneur. Mais faire attention à ce que l'on dit. Parce que ce sont ces mots à lui qu'il est important d'apporter. Et comme Jésus lui-même le dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. » Dans ma Bible, il y a un renvoi qui indique que toute parole vaine, c'est toute parole inactive. Qu'est-ce qu'on peut dire comme parole inactive? D'autres aussi, hein? Mais attention aux paroles inactives qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. La parole de vie est bien celle de Jésus. Et comme Paul l'indique, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ. La parole de Christ. Donc bien prendre conscience que la parole, c'est la parole de vie. La parole de Christ, la parole de Dieu, c'est la parole de vie. Mais celle-là seulement, uniquement celle-là, cette semence-là. Deuxième point, c'est un aliment. C'est un aliment. Alors, on a appris dans un groupe de l'Église un psaume, un passage du psaume 1, qui est merveilleux et qui dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Psaume 1, versets 2 et 3. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si on ne le fait pas, effectivement, on dépérit. Si on n'est pas planté près d'un courant d'eau, comme un arbre, qui est donc démuni d'eau, il ne peut que se dessécher. D'une part, il n'y a pas de fruits, c'est sûr. Et d'autre part, son feuillage, il est out. Il y a un verbe qui est important dans ce passage, à bien souligner. C'est le verbe trouver. Heureux l'homme qui trouve son plaisir. Parce que pour trouver, il faut chercher. Il faut chercher. si on ne cherche pas à être près du courant d'eau, si on ne cherche pas à effectivement boire de cette source-là, on ne risque pas effectivement de trouver toutes les ressources qui peuvent s'en dégager. Jésus aussi, dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, a répondu à l'ennemi, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et malheureusement, on prend bien conscience que dans la société où l'on vit, les gens sont préoccupés par l'aliment physique. On se préoccupe naturellement, d'ailleurs, de cet aliment physique. Mais est-ce que les gens pensent, malheureusement, à ce qu'ils ont aux besoins spirituels? Et si tant de personnes, tout en ayant, en disposant de cet aliment physique, sont quand même en attente de quelque chose, c'est bien parce qu'ils ne comblent pas un autre besoin essentiel, le besoin spirituel de Dieu. Il suffit de voir effectivement la vie de certains people, comme on dit aujourd'hui, qui disposent de tout ce qui est matériel, qui peuvent manger encore plus qu'on peut penser ou avoir encore plus qu'on peut imaginer, mais qui sont comme insatisfaits de leur vie, parce qu'ils ne reçoivent pas l'aliment spirituel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un autre passage aussi, essentiel, qui indique bien que la parole de Dieu est non seulement une parole de vie, mais également un aliment qu'on doit utiliser pour vivre, pour grandir, pour croître. C'est ce que nous dit Pierre dans sa première épître, chapitre 2, versets 2 et 3. Désirez, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Est-ce que nous désirons, est-ce que je désire comme un enfant nouveau-né cette parole? Est-ce que l'image est intéressante? Est-ce que l'image vous parle? C'est incroyable comme le Seigneur sait nous parler avec des images. Tout à l'heure, donc, l'image de cet arbre planté près d'un courant d'eau, l'image aussi du semeur. On est comme des enfants, hein, on a besoin d'images pour comprendre. Et c'est vrai que bon, il y a des vérités spirituelles qui ont besoin d'être imagées. D'où l'utilisation de ces images par Dieu. Donc là, on nous parle d'un nouveau-né. Il faudrait que je sois comme un nouveau-né par rapport à la parole. Et il faudrait que j'aspire à lire la Bible comme un nouveau-né aspire le sein de sa maman. Eh bien, personnellement, je suis loin d'être toujours dans cette situation. Est-ce que vous l'êtes ? C'est un aliment spirituel indispensable pour notre vie. C'est ce que veut nous dire le Seigneur en particulier ce matin. Il faut qu'effectivement cette parole soit comme une nourriture indispensable. On pense déjà, il est quelle heure ? Midi moins 10. On pense déjà au repas qu'on va prendre. Et le soir en particulier, moi j'aime bien manger du chocolat. Mais je pense que je suis le seul dans cette salle.
Non.
Voilà. Donc, est-ce que j'aspire à manger sa parole comme j'aspire à manger mon chocolat le soir devant la télé? Attention aux autres aliments que nous sommes tentés de prendre à la place de ce lait spirituel. Alors, bon, bien sûr, il ne s'agit pas de s'interdire toute autre lecture, mais il faut faire attention à ce que ces autres lectures ne prennent pas la place de cette véritable lecture, de ce véritable aliment. Et il faut faire attention aussi à éviter la pollution de ces autres lectures, de ce qu'on entend par ailleurs, de ces autres paroles, par rapport à cette vraie parole. Et là, toujours le même psaume, le verset que je n'ai pas lu tout à l'heure, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, selon les paroles que l'on entend par ailleurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Donc, la parole est un aliment spirituel indispensable, c'est un concentré nutritif, comme on dit aujourd'hui. Un concentré nutritif qui nous permet effectivement de croître. C'est de l'eau, c'est du pain, c'est un concentré nutritif. Et on en a absolument besoin. C'est une vérité. Or, je dis, j'utilise exprès le terme de vérité, parce que comme toute vérité spirituelle, il faut la saisir, la vérité spirituelle, et y croire. Et c'est seulement si on y croit qu'elle aura un effet dans notre vie. Toute vérité spirituelle doit être saisie par la foi, pour qu'ensuite elle puisse se manifester dans notre vie. Si nous nous contentons simplement de dire « oui, c'est vrai, c'est écrit dans la parole, c'est un aliment », alors c'est sûr que ça n'aura pas d'effet dans notre vie. C'est une vérité que l'on doit saisir par la foi, y croire, c'est un aliment, c'est un véritable aliment, pour qu'ensuite, cette vérité puisse agir dans notre vie. Troisième et dernier aspect, c'est une arme. C'est une arme. Donc, parole de vie, une semence, aliment, concentré nutritif, une arme. Arme, et là j'utiliserai le terme d'explosif. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Vous connaissez tous ce passage. Est-ce que vous avez déjà manié une arme ? Une épée. Imaginez une épée à double tranchant. Alors là, à double tranchant, en plus, imaginez-la très grande. Alors, à deux mains, comme ça, à double tranchant. Et là, si vous la posez comme ça, sur le tranchant et sur, par exemple, la table, là, avec un tranchant aussi filé, vous pourriez effectivement la découper, la table. Une arme, une épée à double tranchant. Cette parole, ces mots, sont des épées, c'est une épée à double tranchant. On a à notre disposition une épée à double tranchant. Bon, je crois que l'image aujourd'hui nous parle. J'ai essayé de vous la faire ressentir, mais je crois que ça n'a pas trop marché. Donc je prends une image plus proche maintenant. Imaginez que cette parole, ce soit de l'explosif, du TNT, bon, TNT c'est encore trop vieux, du C4. Vous avez entendu parler du C4 ? Le C4, c'est l'explosif utilisé par les terroristes et dont on voit effectivement certains dégâts. C'est un domaine dans lequel je peux vous parler plus directement parce que j'étais militaire. Une arme, je sais ce que c'est. Une arme nucléaire, je sais ce que c'est. Un missile nucléaire, je sais ce que c'est. Nous avons à notre disposition une arme nucléaire de précision. Est-ce que nous nous rendons compte que nous avons à notre disposition directe cette arme si puissante ? Prenons le passage dans Éphésiens, chapitre 6. Le passage où Paul explique ce qu'il faut que nous nous revêtions pour combattre les armes du chrétien. Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est la parole de Dieu avec la vérité de ce que Christ a accompli à la croix. Dieu est vrai. Revêtez la cuirasse de la justice. Nous sommes tous protégés par la justice obtenue par Christ à la croix. Nous ne risquons rien par rapport à l'ennemi. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Nous devons porter, effectivement, l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Vous protégez des flèches du malin avec la foi. Je suis vainqueur. Je suis déjà gagnant. Parce que Christ a vaincu à la croix. Tu ne peux rien contre moi. J'ai le bouclier de la foi. Je crois. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pour combattre, nous avons besoin d'une seule arme, c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais attention, si nous allons au combat avec la parole, encore une fois, ne prenons pas, ne nous trompons pas de parole. La parole de Dieu. Pas la mienne, pas les mots que je vais trouver dans mon esprit, par mes raisonnements. Si je veux combattre, si je veux discerner effectivement ce qui est bien ou mal, si je veux convaincre, ce ne sont pas mes mots qui vont pouvoir avoir cet effet-là. C'est la parole de Dieu. Si j'utilise mes propres mots, ce sera comme si j'utilisais un pistolet à eau. Souvenons-nous de notre Seigneur quand il était dans le désert. Tout à l'heure, je vous ai lu un verset où le Seigneur répond à l'ennemi « L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. » Prenons ce passage parce qu'il est, je pense, vraiment représentatif de ce que peut représenter cette arme pour nous. C'est dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. On le connaît tous, on connaît beaucoup, beaucoup de passages. On connaît la parole de notre Seigneur. Mais est-ce que nous nous rendons vraiment compte de ce qu'elle est? Luc chapitre 4. Verset 3, à partir du verset 3. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Qu'est-ce qui vous frappe dans ce passage ? Pourquoi est-ce que Jésus répond simplement par la parole? Il n'était pas capable de répondre à l'ennemi par ses propres mots, parce qu'il est lui la parole. Lui-même est la parole. Il aurait pu répondre directement par des mots, comme il a prononcé des mots à ses disciples, à d'autres mots. Non, il cite strictement la parole. parce que cette parole est déjà strictement suffisante pour répondre à l'ennemi. Et nous, si nous sommes confrontés à une situation, on essaie de trouver nos propres mots pour répondre à la situation, pour corriger la personne qui est en face de nous. On essaie de trouver nos propres phrases. Jésus lui-même, à l'ennemi, face à l'ennemi, face à Satan, ne fait que citer l'Écriture. Ce sont ces mots, la parole de Dieu, qui sont de vraies armes. Autre remarque aussi, vous avez vu comment réagit Satan. Il s'est fait avoir une fois, Jésus répond directement par la parole. Il se fait avoir une deuxième fois, Jésus répond directement par la parole. Et la troisième fois, jette-toi du haut du temple. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, Satan lui-même utilise la parole pour convaincre. Parce qu'il s'est rendu compte, mais bon là, il me répond par la parole, mais moi je vais essayer effectivement, en utilisant la parole, de le tromper. D'où l'importance d'utiliser la parole, mais de connaître toute la parole pour répondre à l'ennemi et pour répondre à une situation. La parole de Dieu est une arme, un explosif. C'est le seul explosif, c'est la seule arme qui nous permet effectivement de combattre. En conclusion, le Seigneur veut vraiment, encore une fois ce matin, mais je pense que tout au long de notre parcours de chrétien, il va vouloir sans cesse que nous revenions à l'essentiel, c'est-à-dire à lui, prendre conscience que cette parole, c'est sa parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, encore plus que la parole de Dieu. La parole est Dieu. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par l'évangile de Jean. Nous sommes en train d'utiliser la parole de Dieu, ce n'est pas simplement qu'un outil, c'est déjà un outil extraordinaire, je l'ai dit, parole de vie, une semence de vie, un aliment, ce que j'appelais donc un concentré nutritif, et ensuite une arme. Mais au-delà de l'instrument, au-delà de ces trois instruments, de ces trois choses, cette parole c'est Dieu lui-même. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Encore plus que ça encore, Jésus est la parole. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Donc quand parfois on s'interroge sur sa présence ou pas à côté de nous, il est près de nous. Il est près de nous. Il est avec nous. On peut compter sur lui. Et pour terminer, on va lire ensemble, si vous voulez bien, le passage que tout à l'heure Bob a lu dans Ésaïe, chapitre 55. Oui, Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Une image merveilleuse, une image qui synthétise ce que l'on vient de dire, en donnant en plus une ampleur extraordinaire, comme la pluie et la neige. On vient de traverser une période, il y a une quinzaine de jours, où on a eu de la neige, puis ensuite de la pluie. Bon, Dieu sait si c'était un peu pénible quand même. Mais imaginez cette pluie, cette neige qui descend, qui descendent des cieux. Eh bien, et l'effet de cette pluie et de cette neige, en dehors de ces aspects un peu négatifs, parce que bon, c'est toujours un peu pratiquement gênant, ça arrose, ça féconde la terre, ça fait germer les plantes, ça donne de la semence ensuite au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, et c'est à cela qu'est comparée la parole, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Vous voyez l'insistance donc d'Ésaïe dans ce verset. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc c'est à la fois une semence, un pain, et une image plus poétique que l'arme, puisque ça accomplit avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Ça a pleine efficacité. Donc voilà ce que représente la parole de Dieu, le privilège que nous avons à l'avoir, cette parole, à l'avoir à notre disposition, toute simple, avec ces mots. Ces mots seulement, uniquement ces mots. La parole est Dieu. Prenons conscience de cela. Pour pouvoir en disposer pour nous et pour pouvoir en faire disposer d'autres. Donc cette longue chaîne de semences, de semeurs dans laquelle nous sommes. Nous avons vraiment ce privilège. Donc demandons vraiment à Dieu de prendre toujours plus conscience de ce privilège d'avoir là cette parole pour nous, mais également pour les autres et à sa gloire. Merci.